Il est tout juste 7h en temps universel, 8h ici dans nos studios à Paris. Merci d'écouter RFI. Et un nouveau journal avec vous, Diane Berger, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et tous.
François Bayrou vante un gouvernement d'expérience en France. Le nouveau Premier ministre a convoqué dans son équipe un grand nombre de poids lourds de la droite et du centre-gauche.
Notamment deux anciens Premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls. Manuel Valls qui va s'occuper des Outre-mer avec une urgence, la situation à Mayotte. Nous écouterons ensemble le témoignage d'un professeur mahorais inquiet pour ses élèves, lesquels seront bien là sur le banc de l'école le jour de la rentrée. Il ne le sait pas encore. Ensuite, le dossier de ce journal avec Franck Alexandre. On fait le point sur les dernières évolutions de la présence militaire française en Afrique. Noël en Syrie, reportage avec les chrétiens de Damas sur le qui-vive face aux nouveaux hommes forts du pays, les islamistes de HTS qui promettent de respecter les minorités religieuses. Et puis en Iran, la chanteuse Parastu Armadi libérée sous caution, elle s'était fait arrêter pour avoir chanté sans voile en robe à bretelles sur les réseaux sociaux. L'heure est maintenant aux passations de pouvoir dans les différents ministères français. Après 10 jours de tractation, l'Élysée a dévoilé hier soir les noms des 36 personnes qui vont composer le nouveau gouvernement de François Bayrou. Pour en parler, nous sommes rejoints en studio par Charlotte Urien-Tomaca. Bonjour Charlotte.
Bonjour Diane.
Alors parmi les personnes qui rejoignent le gouvernement, il y a l'ancienne première ministre Elisabeth Borne à l'éducation, Manuel Valls aux Outre-mer, Gérald Darmanin à la justice. Des poids lourds qui reviennent au gouvernement.
Oui, avec 19 ministres du gouvernement Barnier conduit, donc 13 sans changement de portefeuille. Ce nouveau gouvernement strictement paritaire comporte toutefois, vous l'avez dit, quelques nominations surprenantes. Un gouvernement d'expérience pour réconcilier les Français. François Bayrou a convoqué, vous l'avez dit, quelques poids lourds, dont les anciens premiers ministres Elisabeth Borne et Manuel Valls pour former son équipe, attendue de pied ferme, dans une Assemblée nationale sans majorité. Une équipe moins resserrée qu'envisagée à la base, 20 membres, et marquée par une certaine continuité, avec donc 19 ministres conservés dans la nouvelle équipe. Le premier conseil des ministres est programmé pour le 3 janvier et le chef du gouvernement prononcera sa déclaration de politique générale le 14 janvier devant les parlementaires. Il ne sollicitera pas la confiance de l'Assemblée à l'issue, se disant persuadé que son gouvernement ne sera pas censuré. Le nouveau Premier ministre avait de longue date clamé sa capacité à nommer un gouvernement de large ouverture à droite comme à gauche et sans surprise, l'équipe annoncée hier ne comporte aucun membre du nouveau Front Populaire.
Et un gouvernement qui a donc pour objectif principal de s'inscrire dans la durée et d'éviter à tout prix la censure, Charlotte.
Oui, et l'objectif immédiat, c'est donc de faire voter le budget. Pari risqué, d'autant plus que LFI a déjà annoncé déposer une motion de censure dans la foulée de la déclaration de politique générale du 14 janvier. Alors certes, cette fois, la censure a peu de chances d'être adoptée, car les troupes de Marine Le Pen ne devraient pas la voter, mais les choses pourraient se corser ensuite pour François Bayrou, car son socle politique ne s'est pas élargi, puisqu'il n'a pas de parlementaires socialistes dans son gouvernement. Les anciens PS qui rejoignent son gouvernement faisaient déjà plus ou moins partie des macronistes, donc ils n'emmènent avec eux aucun parlementaire de l'Assemblée nationale. Il va donc devoir continuer à s'atteler à des accords de non-censure, mais vu la composition du gouvernement, ça risque d'être compliqué. Et au-delà du casting gouvernemental, ce qui apparaît comme primordial, c'est la feuille de route du Premier ministre que l'on ne connaît toujours pas à l'heure actuelle. Ce projet qui pourrait éventuellement permettre d'éviter cette censure, car pour le moment, les socialistes, qui sont le groupe pivot pour faire voter ou non cette censure, ne semblent pas satisfaits des propositions faites par le Premier ministre, notamment sur les retraites.
Merci beaucoup Charlotte Urien-Tomaca du service politique de RFI.
Et on évoquait la nomination de Manuel Valls au ministère des Outre-mer. Un dossier urgent l'attend sur le bureau. Diane, la gestion de la crise à Mayotte.
Oui, hier soir à la télévision française, François Bayrou a estimé que le bilan final du cyclone Chido devrait se chiffrer en dizaines de morts et non pas en milliers, comme annoncé par plusieurs sources locales ces derniers jours. Mais dans le territoire français de l'océan Indien, les chiffres évoqués par le Premier ministre paraissent bien déconnectés de la réalité et ils ne convainquent pas les Mahorais. Notamment Abdallah Antoy, il est professeur d'anglais au lycée de Tsarano et il est sans nouvelles de plusieurs de ses élèves. Alors forcément, il redoute le jour de la rentrée scolaire le 13 janvier prochain. On l'écoute.
Il se peut très probablement que ce ne sera qu'à la rentrée qu'on pourra faire les comptes de quels élèves sont là et quels élèves ne sont pas là. Et franchement, ça c'est quelque chose qui me torture l'esprit, qui me fait très peur. Des fois, je vous le dis la vérité, il m'est arrivé plusieurs fois de pleurer en pensant à ça la nuit. En me disant, j'espère que ce ne sera pas celui-là. Et c'est horrible d'avoir cette réflexion-là, mais je pense à mes élèves et je sais que 80% des élèves que j'avais en classe, ils habitent dans ces bidonvilles. Et ben, on saura lesquels sont absents à la rentrée. On espère qu'il y en aura le moins possible d'élèves manquants, mais c'est certain, moi je suis certain que, vu là où il y a mon lycée, On a toute une zone d'habitation faite de briques et de brocs et de ce que vous voyez dans les médias, là, dans les hauteurs. Et beaucoup des élèves viennent de ces zones-là qui sont aujourd'hui totalement rasées.
Abdallah Antoua, professeur à Mayotte, il témoignait auprès d'Alexandre Alves.
Et après l'annonce du nouveau gouvernement en France, le ministre des Affaires étrangères et celui des Armées sont eux maintenus à leur poste.
Oui, Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu qui vont pouvoir continuer leur action. Et parmi les sujets qui vont les occuper, il y a la question de la réarticulation de la présence militaire française en Afrique. Deux pays, le Tchad et le Sénégal, ont choisi récemment de mettre fin aux accords de défense qui les liaient à Paris. C'est le dossier de ce journal. Franck-Alexandre, vous faites le point pour nous sur les dernières bases françaises qui restent sur le continent.
Le rapport de Jean-Marie Bockel, envoyé personnel d'Emmanuel Macron auprès des pays africains concernés par la reconfiguration du dispositif militaire français, n'a pas encore été rendu public, mais il est déjà caduc. L'histoire en effet accélère et en cette fin 2024, deux partenaires historiques de la France, le Sénégal et le Tchad, ont choisi de couper les amarres militaires, mettant fin à une présence armée héritée de l'histoire. Reste le Gabon et surtout la Côte d'Ivoire, mais que ce soit à Abidjan ou au camp de Gaulle à Libreville, la nouvelle philosophie est déjà à l'œuvre. Elle repose sur des emprises qui seront entièrement placées sous l'autorité des pays hôtes. Il n'y aura donc plus ni grosses bases ni contingents, mais des détachements de liaisons interarmées, des noyaux clés qui auront pour mission d'accueillir des détachements temporaires dont la taille fluctuera au gré des exercices, des formations et des opérations.
Djibouti est donc la dernière emprise militaire française sur le continent africain, Franck.
Djibouti, c'est une base éminemment stratégique tournée vers l'Indo-Pacifique, un point d'appui vers les territoires français de l'océan Indien. C'est aussi un pôle de stabilité dans un environnement régional qui est un véritable chaudron. La France y déploie 1500 hommes en permanence au service notamment d'une base navale et d'une base aérienne à quelques encablures du détroit de Bab-el-Mandeb où transite 15% du trafic maritime mondial. Djibouti et Paris sont liés par un accord de défense très spécifique, qui inclut une clause de sécurité. La France assure la police du ciel et s'engage à protéger Djibouti. Mais les forces françaises n'y sont pas seules. Les États-Unis y possèdent aussi leur seule base permanente en Afrique. Et en 2017, Pékin y a ouvert sa première base militaire à l'étranger. Une emprise qui, depuis, n'a cessé de prendre de l'importance. Les Chinois poussent, notent les observateurs, car le port de Djibouti n'est en effet pas extensible et la place se monnaie.
Franck-Alexandre, spécialiste des questions défense pour RFI.
Au Proche-Orient maintenant, des avancées en vue d'un possible accord sur les otages à Gaza.
Benjamin Netanyahou l'a annoncé lui-même hier lors d'une intervention au Parlement. Le Premier ministre israélien, qui n'a pas livré plus de détails et qui est resté prudent. Le week-end dernier, ce sont plusieurs groupes armés palestiniens qui évoquaient un accord de cessez-le-feu plus proche que jamais. On le rappelle, 96 personnes sont toujours captives du Hamas depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. Parmi elles, 34 sont déclarées décédées par l'armée israélienne.
En Syrie, des centaines de chrétiens ont manifesté à Damas, la capitale, après l'incendie d'un sapin de Noël.
Les nouvelles autorités syriennes promettent que les auteurs de l'acte seront punis. Une affaire loin d'être anecdotique dans le pays. Un peu plus de deux semaines après la chute du régime de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir du groupe islamiste Ayat Tahrir al-Sham, le chef de l'organisation Abu Mohamed al-Jolani promet qu'il assurera les droits de chaque communauté du pays. Mais les chrétiens de Syrie ne sont pas pour autant sereins. Oriane Verdier et Julien Boileau sont allés à leur rencontre dans le vieux Damas.
Un immense nœud rouge surplombe la grande arche de pierre qui marque l'entrée de la vieille ville. Nous cheminons ensuite sous un ciel de guirlandes lumineuses. Dans sa petite épicerie, Joseph a accroché ses propres décorations.
Rien n'a changé. Au début, on avait peur qu'ils imposent à nos filles de porter le hijab. Mais non, nous continuons de pratiquer chacun notre religion. Moi, je vais aller à l'église de Sadnaya. Vous savez, il n'y a pas qu'une prison là-bas. Il y a aussi une très belle église millénaire dédiée à la Vierge Marie.
Quelques mètres plus loin, le petit bar ouvert sur la rue d'Elias, lui, ne porte aucune guirlande.
Moi, je fais attention. Tout peut arriver. Ça fait 100 ans que nous vendons de l'alcool ici. Ce n'est pas que nous avons peur, mais on reste prudent avec ce type de produit.
Allah, elle, vend des bijoux.
Moi, je suis musulmane, mais mes voisins chrétiens sont un peu perdus. Ils se demandent s'ils vont pouvoir continuer à vivre leur vie comme avant, boire et sortir, par exemple. Moi, tant que je peux travailler, ça me va. Mais vous êtes là, alors ça va aller. Avant, nous parlions, mais personne ne nous écoutait. Maintenant, vous allez pouvoir témoigner et tout le monde va nous écouter, n'est-ce pas ?
Julien Boileau, Oriane Verdier, Damas, RFI.
Concernant la Syrie, toujours, trois ONG appellent le nouveau pouvoir à prendre des mesures pour conserver des preuves des atrocités commises par le régime de Bachar el-Assad. Documents gouvernementaux, archives des renseignements, sites des fosses communes, des éléments indispensables pour faire la lumière sur le sort de dizaines de milliers de disparus et poursuivre les auteurs des exactions.
Le président allemand appelle les habitants à rester unis.
Walter Steinmeier le reconnaît avec l'attaque de Magdebourg. Je le cite, beaucoup auront le cœur lourd, mais ces sentiments ne doivent pas nous dominer. Vendredi dernier, une voiture bélier a foncé sur le marché de Noël de cette ville. Le bilan est de 5 morts et environ 200 blessés. Et beaucoup de questions demeurent sur les motifs de l'assaillant, un médecin saoudien qui partageait sur Internet des discours complotistes et islamophobes. Hier soir, deux manifestations concurrentes ont eu lieu à Magdebourg. L'une de l'extrême droite qui accuse les flux migratoires. L'autre, une chaîne humaine pour dénoncer toute récupération politique et appeler à la tolérance. Pascal Thibault.
Ceux qui méprisent les citoyens du pays qui leur ont accordé l'asile et n'hésitent pas à les tuer, ceux qui rejettent tout ce que nous représentons, ce que nous aimons, n'ont pas leur place ici. Au pied de la cathédrale de Magdebourg, la coprésidente de l'AFD, Alice Weidel, a dénoncé hier soir, comme d'autres orateurs du parti d'extrême droite, la politique migratoire allemande, responsable pour le mouvement de l'insécurité et de l'attaque de vendredi soir. L'extrême droite passe sous silence que l'auteur de l'attentat, bien que saoudien, avait rejeté l'islam. Dès 2016, il postait sur Twitter « Moi et l'AFD, nous combattons le même ennemi pour protéger l'Allemagne ». Pour les sympathisants du parti, l'origine de l'auteur de l'attaque prime. 3500 personnes assistaient à cette manifestation scandant « Expulsé, expulsé ». L'initiative « Ne donne aucune chance à la haine » avait, elle, réuni 4000 personnes pour une chaîne humaine à travers Magdebourg. Elle dénonçait l'instrumentalisation de l'attaque par l'AFD et plaidait pour la tolérance et l'humanité. Pascal Thibault, Berlin RFI.
C'est un geste historique selon les organisations de défense des droits de l'homme aux États-Unis. Joe Biden, le président sortant, a commué la peine de 37 condamnés à mort. Ils vont échapper à l'exécution. À la place, ils resteront en prison pour toute leur vie. Une mesure annoncée à moins d'un mois désormais de l'arrivée à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump. Les militants anti-peine de mort redoutent avec lui une hausse des exécutions. En Iran, elle avait été arrêtée après avoir chanté sans son voile. Le tribunal a finalement libéré sous caution Parastu Ahmadi. Avec ses musiciens, elle avait organisé un concert privé, sans public, sans hijab, mais diffusé en direct sur Internet et très applaudi sur les réseaux sociaux. Les précisions à Téhéran de notre correspondant Siavosh Ghazi.
Plusieurs médias iraniens ont simplement affirmé que la chanteuse et ses musiciens se sont présentés devant le tribunal pour connaître les actes d'accusation avant d'être libérés sous caution. Aucun détail n'a été donné sur les accusations. La vidéo d'une trentaine de minutes du concert, organisé avec de très grands moyens dans un caravansérail, avait été partagée sur YouTube. La jeune chanteuse, Parastu Ahmadi, apparaissait en robe longue, sans manches et les épaules apparentes, pour chanter plusieurs célèbres chansons iraniennes. La vidéo et les photos du concert ont été partagées par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux qui ont applaudi la chanteuse. Selon la loi iranienne, une femme ne peut pas chanter seule en public et doit respecter le voile islamique. Elle risque plusieurs années de prison, mais dans le contexte économique et social de plus en plus difficile et le mécontentement de la population, les autorités sont très prudentes. D'ailleurs, l'application de la nouvelle loi sur le voile qui durcissait les peines et les amendes a été suspendue pour éviter des réactions. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Enfin, en bref, un mot du Vendée Globe, la course de voile autour de la planète et cette étape emblématique de l'épreuve. Le Français Johan Richomme a franchi il y a quelques heures le Cap Horn, la pointe sud de l'Amérique, cela dans un temps record. 43 jours, 11 heures et 25 minutes, il est talonné par un autre Français, Charlie Dalin. Il est maintenant 7h14 en temps universel. Je vous laisse avec Gaëtan Plenet pour la suite de RFI Matin.
Et vous, Diane Berger, on vous retrouvera pour le journal de 10h, heure de Paris. À tout à l'heure. Nous, on passe à la revue de presse internationale. Avec le retour en studio de Théo Renaudon, et Théo à la une de ses revues de presse, le Liban, un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, aux 34 morts depuis 3 semaines.
Ce flou qui profite encore à Israël, titre le quotidien libanais, L'Orient le jour, alors que le comité de supervision de l'accord de cessez-le-feu doit se réunir ce mercredi. Un cessez-le-feu dont L'Orient le jour tire le bilan. Il décrit une escalade aux limites floues, une désescalade, pardon, aux limites floues entre raids aériens, tirs d'artillerie et de sommations, rafales de mitrailleuses, détonations de maisons et manœuvres en tout genre de troupes israéliennes recensées quotidiennement au Liban Sud, sans parler des survols incessants, écrit L'Orient le jour, des avions de guerre et des drones, y compris au-dessus de Beyrouth. Des victimes aussi, vous en avez parlé, parmi elles L'Orient le jour, selon L'Orient le jour, 3 familles tout juste rentrés dans leur domicile, frappés par l'aviation israélienne, ou encore un automobiliste ciblé par un tir de drone samedi dernier. Selon le journal, l'explication de ce cessez-le-feu de papier se cache justement sur le papier. Le diable est dans les détails, écrit-il. Ce document, qui dès son 2e point établit une nuance entre les obligations des parties libanaises et israéliennes, tout en rappelant le droit inhérent à la légitime défense des deux camps, il est demandé d'un côté au Hezbollah et aux autres groupes armés présents sur le territoire libanais de cesser de mener des opérations contre Israël, tandis que de l'autre côté, il est stipulé qu'Israël ne mènera aucune opération militaire offensive contre des cibles libanaises, qu'elles soient civiles ou militaires. Offensive, un adjectif loin d'être anodin, note le quotidien francophone. Offensive, alors qu'Israël justifie ses guerres par son droit à se défendre depuis le 7 octobre, sous-entendant que chacune de ses opérations sont défensives.
En Espagne maintenant, on s'étonne de voir Manuel Valls revenir dans un gouvernement français.
Oui, l'ancien Premier ministre français né à Barcelone est de retour au gouvernement nommé par Emmanuel Macron au ministère des Outre-mer. J'ai cru que c'était une blague, se moque le journal El Nacional dans un éditorial acide. Un journaliste grogne. La France arrogante récupère Manuel Valls, 62 ans, après ses expériences politiques ratées et rappelle, expériences parmi lesquelles son retentissant échec aux élections municipales de Barcelone en 2019. En effet, il y a 5 ans, l'ex-premier ministre avait tenté une percée dans la vie politique catalane sans succès. De cette période Valls, le journal se souvient de son départ, même s'il n'avait pas été nommé maire. Il avait eu un siège au conseil municipal de Barcelone, mais en 2021, il l'abandonne, raconte le journal. Il ne s'est pas présenté à une séance plénière. Le conseil municipal a donc simplement pris acte de cette démission, qui a été approuvé avec la position favorable de tous les groupes, se souvient le journal. Abandon de poste pour démarrer à l'époque une nouvelle carrière, celle de chroniqueur sur des radios et télévisions privées françaises. Rael Nation, provoqueur, titre Manuel Valls, ministre des colonies, se demande quelle attitude adoptera cet ancien ministre de l'Intérieur face aux crises que traverse l'outre-mer français.
Et puis enfin, aux États-Unis, Joe Biden décide de gracier la plupart des condamnations à mort fédérales du pays.
Oui, annonce faite ce lundi par le président américain, on l'entendait dans le journal. 37 détenus dans le couloir de la mort de la justice fédérale ne seront pas exécutés. Joe Biden utilise ses dernières semaines de mandat pour empêcher Donald Trump de procéder à ses mises à mort. Donald Trump, partisan de la peine de mort. Le Washington Post, ce matin, salue un revirement remarquable de Joe Biden sur cette question. Lui qui était, il y a plusieurs décennies, un fervent partisan de la peine capitale, le journal américain explique que la peine de mort recule dans tout le pays au cours des dernières décennies et rappelle que selon les sondages, le soutien de l'opinion publique aux exécutions a diminué.
La revue de presse internationale signée Théo Renaudon. On part à Bethléem, en Cisjordanie occupée. En cette période de l'année, on devrait évidemment parler de l'affluence des pèlerins venus célébrer les fêtes dans cette ville qui aurait vu naître Jésus, selon la croyance chrétienne. Sauf que depuis la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023, c'est surtout une ville sinistrée, des hôtels fermés faute de clients, des pèlerins absents et une population locale qui sombre dans la pauvreté. C'est un reportage de Pierre-Olivier.
Devant la basilique de la Nativité, quelques pèlerins venus d'Asie, une dizaine tout au plus. Nadim tient une boutique de souvenirs transmise de génération en génération depuis 200 ans.
Cette année, Bethléem est triste. Nous n'avons aucun touriste. Regardez, il n'y a même pas de décoration dans Bethléem. Ça ne ressemble vraiment pas à l'ambiance de Noël.
Conséquence, sur les 80 hôtels que compte la ville, seuls 22 sont ouverts. Elaïs Arja dirige l'établissement Bethléem, presque désert.
La crise a commencé avec le Covid. On a été fermé pendant 2 ans, puis on a ouvert quelques mois seulement. Et depuis maintenant 445 jours et le début de la guerre, on a dû fermer à nouveau, faute de visiteurs. J'ai 400 chambres à $50 la nuit ici. Ça fait plus de 8 millions de pertes.
Une situation catastrophique qui inquiète Majed Israq, adjoint du ministre du Tourisme palestinien.
Par rapport à une année normale, nous n'accueillons que 2% des touristes. Chaque jour, le manque à gagner est $1,5 million de dollars pour la ville de Bethléem avec les hôtels, les restaurants et les souvenirs.
Plus grave encore, des dizaines de milliers d'habitants se retrouvent sans travail.
8 000 employés vivaient du tourisme et plus de 10 000 travaillaient en Israël, dans le bâtiment notamment. Mais depuis le 7 octobre, ils n'ont plus le droit de passer la frontière. Aujourd'hui, un tiers des habitants de Bethléem n'a aucun revenu.
Pour percevoir cette pauvreté galopante, direction le marché, à l'autre bout de la ville, où Maï fait ses courses avec ses 3 enfants.
Même les produits essentiels, il y en a beaucoup que je n'achète pas, car nous n'avons plus les moyens. Mon mari ne travaille plus depuis le début de la guerre. Il était employé en Israël.
Alors, à Bethléem, les initiatives se multiplient. Le père Laurent est membre de la communauté apostolique salésienne et responsable d'une boulangerie solidaire.
Au début, la boulangerie a été créée pour les pauvres de la région de Bethléem. On aidait 50 familles. Mais depuis le début de la guerre, on aide entre 120 et 130 familles. Et on donne la moitié de notre pain aux bonnes œuvres. En échange de plusieurs pains par jour, les familles payent un montant symbolique comme 5 euros par mois.
Dans une rue, près de la Nativité, ce chrétien palestinien nous confie son vœu le plus cher pour Noël.
Salam, 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 ou pas salam.
La paix, la paix, la paix et encore la paix. Pierre-Olivier Bethléem, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. À 8h22 à Paris, en France, le Premier ministre François Bayrou avait promis un gouvernement avant Noël. Ça s'est joué à peu, mais ça y est, la composition du nouvel exécutif est tombée hier soir après d'intenses tractations. Et le chef de ce gouvernement est satisfait. Il se dit confiant d'échapper à la censure qui a pourtant emporté le précédent exécutif. Alors se berce-t-il d'illusions? Ou cette nouvelle équipe ministérielle a-t-elle vraiment ses chances? On en parle avec vous, Pierre-Adrien Bartoli, bonjour.
Bonjour.
Politologue et directeur des études politiques à l'Institut Harris Interactive. Merci d'être avec nous sur RFI pour réagir à la nomination de ce nouveau gouvernement. François Bayrou voulait une équipe la plus ouverte possible. Le compte n'y est pas vraiment a priori.
C'est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des nouvelles personnalités qui ont rejoint le gouvernement. Parmi ces personnalités qui ont rejoint le gouvernement, certaines sont déjà connues de la part des Français parce qu'elles ont déjà exercé des positions de pouvoir. En revanche, ce qui va être très important, c'est d'élargir le socle à l'Assemblée, c'est-à-dire unir des députés d'autres horizons que simplement ce qu'on appelle le socle commun, c'est-à-dire les députés macronistes au sens large et de la droite, des Républicains d'une autre part. Pour l'instant, on voit pas bien quelle personnalité permettrait au sein du gouvernement cet élargissement.
Et pourtant, je le disais, François Bayrou semble penser que la présence de poids lourds dans son gouvernement va lui permettre d'échapper à la censure. Est-ce qu'il se leurre ?
En tout cas, c'est sûr qu'avoir des poids lourds dans le gouvernement, donc des personnalités davantage politiques habituées à ce type de tractation, c'est quelque chose d'important. Et c'est tout le pari de François Bayrou. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'on est dans une logique relativement partisane. On a des députés qui ont des agendas, notamment politiques, et ça va être compliqué pour eux d'aller négocier avec des ministres, certes poids lourds historiques de la politique, avec lesquels ils ont des différences de fond, et des types d'accords ou des types d'échanges qui seraient potentiellement difficilement compris par leurs électeurs. Surtout dans une situation relativement difficile telle qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'appartient pas vraiment à la culture politique française. La question du compromis, trouver des accords, trouver des terrains d'entente, c'est pas quelque chose qui correspond à la philosophie de la Ve République et aux habitudes qu'ont les Français en termes politiques. C'est pour ça qu'il va falloir reconstruire non seulement un équilibre à l'Assemblée, mais toute une culture politique chez les députés eux-mêmes, chez les ministres, bien que ce soit des poids lourds, on en a parlé, mais également chez les Français qui devront arriver à comprendre qu'on puisse passer ce type de tractation, et c'est loin d'être évident.
Alors l'une des nominations qui fait le plus parler, et ça fait même parler jusqu'en Espagne, on l'entendait il y a quelques minutes dans la revue de presse, c'est celle de Manuel Valls au ministère des Outre-mer, ex-premier ministre sous François Hollande, pas forcément le plus apprécié, dirons-nous, dans l'opinion publique. Est-ce que cette nomination vous surprend ?
La nomination de Manuel Valls, bon, elle est nouvelle, on est face à une personnalité différente. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on parle d'un ancien Premier ministre. C'est assez rare, alors, c'est déjà arrivé, Laurent Fabius, Alain Juppé, que d'anciens Premiers ministres soient revenus ensuite dans un gouvernement à une autre place, mais c'est pas rien, d'autant plus qu'il n'est pas le seul. Il y a également Elisabeth Borne. Donc son retour n'est pas anecdotique. Le deuxième enjeu, c'est la position dans l'ordre protocolaire. Il est très haut, ce qui est quelque chose qui est dû évidemment à ses fonctions passées, mais également au poids qu'on veut donner au ministère des Outre-mer qu'il va occuper. La vraie question qui va se poser d'un point de vue politique, et je ne parle pas du fond des dossiers pour Manuel Valls, ça va être son acceptation par l'opinion et par les oppositions. Et Manuel Valls a ce problème, c'est qu'il est vu d'un œil un peu distant de la part de la droite ou des proches des Français qui se sentent proches d'Emmanuel Macron, parce qu'il vient pas complètement de leur camp politique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est aussi vu d'un œil un peu distant de la part des électeurs de gauche, parce qu'il est vu comme l'aboutissement du quinquennat de François Hollande, qui a laissé une image et un souvenir parfois douloureux pour une partie des électeurs de gauche, y compris chez les socialistes, ce qui lui fait une base d'opinion assez faible, pas vraiment de cohorte qui le suivent et qui le soutiennent, ce qui le met potentiellement en une position difficile.
Alors ça, c'est pour Manuel Valls. Parmi les nouveaux entrants, un profil que l'on n'attendait pas forcément, celui d'Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, nommé au ministère de l'économie. Pourquoi ce choix d'une personnalité nouvelle à ce poste précisément? Parce que c'était déjà un peu le cas, on s'en souvient, avec le prédécesseur, Antoine Armand. Est-ce que ce n'est pas justement à l'économie, face à l'immense défi de la dette abyssale, qu'il faudrait nommer des pontes, comme on le disait tout à l'heure, pour tenter de rassurer?
Oui, alors Éric Lombard, c'est quand même pas n'importe qui. Éric Lombard, c'est le président de la Caisse des dépôts et des consignations.
Le passif politique, disons. Pas de mandat, pas de...
Pas de mandat. Après, c'est un profil qui a beaucoup navigué dans les cabinets ministériels, donc qui connaît la machine d'État. C'est quelqu'un qui a travaillé à la fois dans le privé et dans le public, ce qui lui donne une vraie expérience. Et c'est un technicien. Ce qui va se passer, c'est le texte le plus important sur lequel il va falloir trouver un compromis malgré tout, ça sera la question du budget, qui est toujours pas traité, on le rappelle. Faire le choix d'un technicien pour pouvoir faire passer ce budget, alors appuyé par Amélie Montchalin, qui sera au compte public, donc ça sera un binôme, c'est important. C'est important d'avoir quelqu'un qui est d'expérience, quelqu'un qui est technicien, et qui puisse, et c'est tout le pari du gouvernement, dépassionner, voire dépolitiser le texte qui pourtant est le texte le plus politique, c'est-à-dire le budget.
Alors Pierre-Adrien Bartoli, rapidement, il y a eu cet incident, Xavier Bertrand, qui a dit avoir été écarté du nouvel exécutif en raison de l'opposition du Rassemblement National. Pas d'influence de l'extrême droite, a répondu hier soir François Bayrou, qui préfère parler d'une approche politique différente avec Xavier Bertrand. Qui croire?
Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est qu'on a deux versions qui s'affrontent, deux versions très différentes, qui sont toujours problématiques pour les responsables politiques. Il y a une question de fond. La question de fond est de savoir si le nouveau gouvernement de François Bayrou va être soumis aux mêmes contraintes que le gouvernement qui est tombé de Michel Barnier, à savoir est-ce que l'ERN, qui a le nombre de députés le plus important à l'Assemblée, peut être juge de paix et, par le vote d'une censure, faire tomber le gouvernement. Et puis, il y a une question de forme. Premièrement, trouver un accord.
On n'a plus le temps, malheureusement, de l'aborder. Voilà. Je suis désolé, je vais devoir vous couper, mais effectivement, on verra la position vis-à-vis du Rassemblement National, de ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup, Pierre-Adrien Bartoli, d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
RFI, la sélection du mois.
Nino et Niska.
Bébé, tu connais, cœur de pirate, du mal à me dévoiler. Dans le tiroir, j'ai tout cas, ça te touche car j'ai trop bataillé. Un cœur en mille morceaux. j'avais besoin de stabilité.
La distance qui nous sépare, toi et moi.
Damso et Kalash.
Le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme.
RFI Musique. Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
C'est déjà l'un des défis de la société ukrainienne, la réinsertion de dizaines de milliers de soldats blessés ou de retour de captivité. Parmi les initiatives soutenues par le gouvernement, une troupe de théâtre pour les aider à évacuer leurs émotions.
Accent d'Europe, tout à l'heure à partir de 11h35 TU sur RFI.